Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 3 juillet 96, deuxième conférence.
Faites par l'intelligence, par exemple celle du corps et de l'âme, correspondent à quelque chose de réel, puisque les distinctions sont intentionnelles, alors que les séparations sont existentielles.
C'est très juste. C'est très bien comme question. La séparation fait que je saisis deux réalités distinctes. Quand je distingue, je distingue deux réalités. Je distingue deux formalités. Je distingue deux aspects de la même réalité. Et votre intelligence, quand elle fait la distinction, est capable de discerner si cette distinction est une séparation ou c'est une distinction formelle. Vous pouvez le faire, et vous devez le faire, si votre intelligence est parfaitement en éveil. La séparation, c'est facile à comprendre. Ce livre, ça en fait deux. Et ils sont distincts. Ils sont distincts et séparés. La séparation implique un jugement d'existence. Et le jugement d'existence atteint un être autre. Cet être-là, j'atteins cet être-là. Vous n'allez pas dire, sauf si vous êtes encore dans un point de vue très extérieur, ces deux livres sont séparés et réellement distincts parce qu'ils ont deux couleurs différentes. Parce qu'alors, je saisirai maintenant un autre livre de la même couleur que celui-là. Je dirais, ils sont deux de la même couleur. Ah. Ils sont distincts quant à leur couleur. Sont-ils distincts réellement à cause de leur couleur? Je vous laisse répondre, hein. C'est pas la couleur qui les rend séparés. C'est parce qu'ils sont autres dans leur être. Ils peuvent avoir des couleurs semblables. Ils peuvent avoir des couleurs distinctes. Et vous faites la distinction. Et vous voudrez bien hésiter. Je les vois de loin. Mes yeux baissent. Je les vois de loin. Je dis, sont-ils séparés? Sont-ils distincts? Vous savez, le matin, quand vous êtes sur la route et que vous voyez quelque chose au loin, est-ce qu'il y a deux automobiles, un camion et une petite voiture? Ou est-ce qu'il n'y en a qu'une? S'il y a beaucoup de brouillard, vous ne pouvez pas distinguer. Et du reste, vous dites, je distingue mal. Vous attendez un moment où vous verrez qu'il y a bien deux réalités. Alors, essayez de comprendre à quel moment vous passez d'une distinction à une séparation. La séparation se fait par le jugement d'existence. Et la distinction implique une distinction qualitative, formelle. Alors, quand il s'agit de la distinction de l'âme et du corps, je saisis l'âme autrement que je saisis le corps. Je peux très bien avoir un jugement d'existence pour le corps. Ça pose pas de problème. J'ai une connaissance directe du corps. Je donne la main à mon voisin ou à ma voisine. Elle est autre que moi. Aucun doute. L'âme, est-ce que vous lui donnez la main? Non. expérience directe de l'âme. Non. Donc, la distinction réelle de l'âme et du corps repose sur l'expérience. Pas du tout sur mon âme, mais non, pas du tout sur mon intelligence. Sur l'expérience. Vous avez une expérience du corps immédiate. Vous n'avez pas de connaissance directe de l'âme, puisqu'il faut l'induire. Ce serait beaucoup plus vite fait. Hein. Si je pouvais dire, aujourd'hui, j'ai une grosse âme. Elle prend de la place. Tandis que vous pouvez dire, j'ai un corps assez pesant. J'ai besoin de place. Quand vous êtes en avion, vous comprenez ça tout de suite. Vous ne dites pas, vous qui êtes à côté de moi, vous ne pourriez pas diminuer un peu votre âme. Et vous pouvez dire, écoutez, prenez pas tant de place. Donc il y a deux expériences différentes, deux jugements différents qui impliquent une véritable séparation réelle. Ce qui est plus délicat, c'est lorsque vous distinguez l'âme spirituelle et l'intelligence. Quand vous distinguez l'intelligence et la volonté. Ah, est-ce que ce sont des distinctions faites par mon intelligence? Ou est-ce que ce sont des distinctions que mon intelligence, met en pleine lumière. L'intelligence formalise quand elle connaît quelque chose. Y a-t-il une distinction réelle entre intelligence et volonté? Je fais la distinction. Et vous direz de quelqu'un, oh, il a une intelligence prodigieuse, pénétrante. Mais sa volonté, oh, elle demanderait de se fortifier un peu. Sa capacité d'aimer, ça demanderait de se fortifier un peu. Vous direz l'inverse. Oh, cet homme-là, ce qu'il est généreux, ce qu'il est agaçant, il est si peu intelligent. Alors, il pense avec sa volonté, c'est pas fameux. Il est généreux, d'une générosité folle, mais ça déborde. Ça manque un peu d'intelligence. Quand vous dites ça, vous croyez que vous faites qu'une distinction de raison, de l'intelligence, pas du tout. Vous avez saisi des qualités. Vous avez saisi un exercice de l'intelligence. Et au bout du terme, vous avez dit, il est très intelligent. Il voit tout de suite la confusion. Mais moins généreux. Et on saisit, on a l'expérience de la générosité de quelqu'un. Comme on a l'expérience de son intelligence. Mais on touche. De fait, la même réalité, ou deux réalités distinctes. Bien, je dirais, on touche deux réalités distinctes. Parce que j'ai l'expérience en intelligence, l'expérience à moi. Donc, dès qu'il y a expérience directe, c'est facile. Même si je ne peux pas séparer d'un côté de la balance l'intelligence, de l'autre côté de la balance sa volonté, je regarde, tiens, tiens. Non, je ne peux pas les peser, ça n'a pas de poids. Mais il y a des expériences immédiates de l'intelligence de quelqu'un. Cette expérience immédiate de la générosité. d'une certaine manière la même expérience qui me fait connaître telle personne. Alors, est-ce que la distinction que je fais entre Pierre pense, Pierre aime, c'est la même personne? Je dirais, c'est deux activités différentes, et vraiment différentes, et réellement différentes. Et ça touche le jugement d'existence. Oui, c'est l'intelligence qui, par le jugement d'existence, touche des réalités différentes. Et que lorsque je définis simplement intelligence et volonté, ma définition ne touche pas la différence existentielle. C'est ce qu'on appelle en philosophie l'appréhension et le jugement. L'appréhension, c'est la première activité de l'intelligence qui saisit des déterminations et des formes, des quantités différentes, des notions différentes. Et puis le jugement qui saisit deux réalités différentes. Donc c'est l'intelligence elle-même qui fait le discernement. Et ce discernement, il est dans la réalité. Donc c'est l'intelligence qui exprime des différences réelles qui sont plus ou moins cachées. Elle les exprime, elle les formalise. Après.
Pouvez-vous nous repréciser la distinction entre principe radical et ses principes propres, les puissances? Principe radical, l'âme, et ses principes propres, les puissances. Peut-on dire que les puissances sont cause efficiente des opérations vitales? Mais que peut-on dire du lien entre l'âme et ses puissances? Est-elle cause formelle des puissances?
Vous touchez là un très gros problème, mais qui est très important. Parce que quand j'induis un principe, une source radicale, l'âme, mon âme est présente quand je vous parle. Et ma parole a une ardeur pour communiquer la vérité, dans la mesure où j'ai un grand amour de la vérité. Et ma parole peut avoir une ardeur qui est comme étouffée parce que je n'ai plus de voix. La voix fait partie, non pas de l'intelligence, mais de la parole. Pour parler, il faut avoir de la voix. Et quand on fait l'expérience de ne plus avoir de voix, on ne peut plus parler avec autant de netteté. Et la première expérience qu'on a, quand soudainement on n'a plus de voix, c'est d'être beaucoup moins intelligent. C'est très curieux. Parce que la plupart du temps, notre voix et notre parole nous aident à comprendre. Et quand on n'a plus de voix, et que la parole devient difficile à être communiquée, cette difficulté qu'on a pour communiquer empêche l'ardeur de la connaissance. Et au début, on a vraiment une sorte de panique. Après, on s'habitue. On dit, c'est pas la voix qui me fait penser. Et ça m'aide. C'est évident que la voix aide et la parole aide. À tel point que certaines personnes ne pensent que quand elles parlent. Quand elles parlent plus, elles ne pensent plus. Ça arrive, elles s'endorment. ce qu'un autre dit. On l'entend mieux. Et on se réveille davantage que lorsque on fait écouter. La parole aide à penser. Je ne dirais pas que sans la parole, on ne penserait pas. C'est deux choses distinctes. Réellement distinctes. Mais il y a un ordre entre les deux. Et certaines personnes ne pensent que lorsqu'elles parlent. Donc là, il y a un problème, vous voyez, de relation entre le corps et l'âme. Mon corps m'aide à penser. Là, en disant ça, je suis très loin de Platon. Je suis très proche d'Aristote. Pour savoir si vous êtes platonicien ou si vous êtes aristotélicien, résolvez ce petit problème. Est-ce que le corps vous aide à parler? Ou est-ce que le corps est un obstacle pour vous à parler? Alors évidemment, ça peut venir d'une habitude. Et c'est vrai que le corps nous donne des images, des représentations. Et ces images et ces représentations nous aident normalement à penser. Mais quand il y a trop d'images, ça peut devenir un obstacle à la pensée. Quand il y a trop d'images qualitatives, oui, ça peut empêcher de pénétrer plus avant. C'est trop brillant, c'est trop étincelant. C'est comme quand la lumière est très étincelante, elle vous empêche de voir la couleur. Il y a quelque chose comme ça. La couleur nous aide à voir la lumière. Elle est le procédé par lequel on peut découvrir la lumière. Et lorsque la couleur est trop forte, la lumière disparaît. Il y a quelque chose qui est particulier, c'est que la lumière ne se voit plus. Alors vous voyez, comme tout ça est complexe, hein, parce que les causalités... sans source, propre de la connaissance intellectuelle du cogito. Donc, si l'âme est source radicale de l'intelligence,
plus que maintenant. Si vous assistez.
crâne ne vieillit pas. Est-ce que mon intelligence vieillit ? Je n'ai pas beaucoup d'expérience de la vieillesse. C'est difficile de répondre. Et le jour où vous aurez l'expérience de la vieillesse, ce que je souhaite, le jour où vous aurez l'expérience de la vieillesse, alors à ce moment-là, est-ce que vous pouvez dire que votre âme vieillit, que votre intelligence vieillit ? Pouvez-vous dire que votre âme vieillit ? Non. Votre corps vieillit. Votre imagination vieillit. Alors c'est intéressant. Quels sont les signes de la vieillesse de l'imagination ? Puisque mon intelligence a besoin de la coopération de l'imagination pour penser. Et que l'image, l'imagination, vieillit. Vous allez donc dire, mais il y a donc indirectement un vieillissement par la cause matérielle. Alors il faut bien s'entendre. Je dirais que formellement, mon âme ne vieillit pas. Mais selon son conditionnement, elle peut vieillir. Et elle vieillit. On est plus vite fatigué. Et si on est plus vite fatigué, mon intelligence devient rampante. Elle a beaucoup plus de peine d'aller jusqu'au bout de la pénétration. Et c'est pour ça, quand on commence la métaphysique, quand on est jeune, là, mon intelligence grandit étonnamment. Et il y a une certaine souplesse plus profonde qui permet à l'exercice de mon intelligence de monter plus haut. Mais au sens strict, mon intelligence ne vieillit pas. Mais le conditionnement de mon intelligence, les images, l'attention, peut vieillir. Je peux être plus vite fatigué. Si je tombe malade et que j'ai mal à la tête, c'est difficile de faire de la métaphysique avec un très gros mal de tête. Mais au sens strict, il n'y a pas une métaphysique du mal de tête qui provient d'une intelligence fatiguée ou d'une intelligence qui implique un mal de tête. Non. C'est au-dessus. Mais selon le conditionnement, oui. Alors ce conditionnement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'exercice. Dans son exercice, j'ai plus de peine à penser si je suis fatigué, si j'ai mal à la tête. Alors vous voyez, c'est assez complexe, hein, de voir les rapports de l'intelligence et de l'âme. Mon âme ne vieillit pas, mais mon corps vieillit. Et quand mon âme ne vieillit pas et que mon corps vieillit, il y a une certaine usure qui se fait sentir, une inadaptation, un manque d'harmonie entre mon corps et mon âme. Alors, c'est plus dur de faire repartir la machine.
La génétique intervient sur le corps. Quelles conséquences au niveau de l'âme? Y a-t-il du plus et du moins dans l'information du corps par l'âme? Ça revient un petit peu à ce que vous avez dit tout de suite. La génétique qui intervient sur le corps, comment comprendre ça? Est-ce qu'elle touche l'âme? Est-ce que la génétique touche l'âme en intervenant sur le corps?
La génétique.
Génétique.
Génétique. L'aspect génétique. Y a-t-il du plus et du moins dans l'information de l'âme par rapport au corps? Puisque cette information, comme nous le verrons, est substantielle, elle est indivisible. Mais ce qui se modifie, c'est comme le rayonnement de l'information avant et après. L'information elle-même est indivisible. Mais il y a des dispositions. Parce qu'il faut bien expliquer la mort. Comment expliquer la mort? La mort, c'est la rupture de l'âme et du corps. Si mon âme informe mon corps, et que cette information du corps est indivisible, comment la mort peut-elle exister? La mort ne peut pas exister. C'est indivisible. Vous ne cassez pas quelque chose d'indivisible. Vous ne pouvez pas. Mais comme l'âme informe le corps, et du côté du corps, ce n'est pas indivisible. C'est indivisible du côté de l'âme. L'information de l'âme dans le corps est indivisible. Et du côté du corps, il y a des dispositions. Le corps est plus ou moins réceptif. Il y a toute une quantité de choses. On ne peut pas dire que n'importe quel corps reçoit l'âme, est informé par l'âme de la même façon. Il y a des corps plus ou moins réceptifs. Et c'est cela qui fait comprendre l'individualité. Et c'est cela qui fait comprendre que vous dites de quelqu'un quand vous regardez un petit gosse où ce qu'il est intelligent, où ce qu'il va être intelligent. On voit tout de suite ce qu'il est éveillé. Quand vous dites d'un gosse qu'il est éveillé, ça veut dire que son âme ne sent pas d'obstacle en informant son corps. Et que son corps, alors, connaît à ce moment-là une vitalité plus grande. Et du côté du corps, puisque ce sont les dispositions, il y a du plus et du moins. Et ça ne peut pas nier. Il y a du plus et du moins. Pas du côté de l'âme. Et cela fait comprendre comment certaines dispositions négatives peuvent arrêter l'information de l'âme par rapport au corps. C'est pour cela qu'un médecin qui ignore l'âme, c'est très grave. Parce que on soigne non pas l'âme, on ne soigne pas le corps, on soigne l'homme. Prétendre soigner le corps sans regarder l'âme, c'est de fait se mettre dans une situation qui fait que nécessairement on ne voit qu'une partie de la vérité. soutien, l'information, la manière de recevoir, la réceptivité. Et je crois que c'est cela qui fait que intérieurement, quand la médecine dépend uniquement de la science,
vous avez dit que le corps était habité par une présence. Pourriez-vous préciser philosophiquement ce qui fait la qualité de cette présence ?
L'amour que vous avez pour l'autre. Si vous n'aimez pas le malade, il n'y a pas de présence. C'est par l'amour que mon âme est présente à quelqu'un d'autre qui lui-même m'aime. Quand il y a une confiance mutuelle entre le malade et le médecin, une confiance mutuelle, un amour mutuel, il y a une présence beaucoup plus grande. Et cette présence beaucoup plus grande fait que la présence de l'âme de l'autre, du malade, beaucoup plus forte. Et je peux alors saisir de l'intérieur son âme en l'aimant. Parce que la présence dit toujours une certaine intériorité. Alors le mot présence, évidemment, n'est pas très net. c'est l'amour mutuel des deux personnes qui sont plus ou moins présentes en fonction de l'amour qu'il y a entre les deux. Le choix amical, le choix à l'égard d'une personne, tu es mon ami, je reçois mon ami, fait qu'il y a à ce moment-là une présence beaucoup plus forte. Et on sent tout de suite que l'amour fait l'unité et que le corps fait l'extériorité. Parce que c'est le domaine de la quantité et qui fait qu'il n'y a pas d'unité. Vous voyez la présence, phénomène de connaissance et d'amour, qui est le fondement de la présence. Plus vous connaissez l'autre, plus vous l'aimez, plus la présence est forte.
Vous avez parlé d'expérience qualitative. Qu'est-ce qui fait la qualité d'une expérience ?
L'amour. La connaissance. La connaissance, c'est la qualité suprême. Ainsi que l'amour spirituel. C'est la qualité suprême. Aimer quelqu'un, c'est lui faire un don. C'est un don de qualité. Quand vous lui donnez des bonbons, c'est très bien. C'est le signe de votre amour. Mais c'est quand même pas tout à fait de la même qualité que l'amour et la connaissance.
Pourriez-vous revenir sur le jugement d'existence ? Que révèle-t-il de notre âme ?
Très bien. Il révèle notre intelligence. L'intelligence s'éveille à l'être. Le bien de l'intelligence, c'est l'être. Et il y a cette phrase de saint Thomas d'Aquin. Connaissance.